Réunion estivale et studieuse aujourd'hui à l'Élysée. Syndicats, patronat, pas moins de 3 ministres et le président de la République lui-même réunis pour évoquer plusieurs dossiers.
Le vrai sujet est, après la crise sanitaire que nous venons de traverser, dans laquelle nous sommes malheureusement encore un peu, le vrai sujet est de relancer, rassembler.
Relancer l'économie surtout. La redémarrer, tout en maintenant le cap de la transition écologique. C'est l'équation que doit résoudre le gouvernement. Pas si simple dans les faits. Le cas pratique des éoliennes le montre bien. Alors que le président souhaitait tripler la production d'électricité issue de l'éolien à l'horizon 2030, les opposants à ce projet tentent de le court-circuiter. À l'image, des sénateurs qui viennent d'amender la loi climat pour qu'elle permette aux maires de disposer d'un droit de veto sur l'installation d'éoliennes dans leur commune. De quoi excéder l'exécutif.
Il y a une ligne climato-sceptique très forte. À chaque fois qu'on présente des mesures en faveur de l'environnement, bonus-malus sur les gros SUV, limitation de l'avion, etc., vous avez les Républicains qui votent contre et la majorité sénatoriale qui vote contre.
Alors que la croissance est de retour et qu'un plan de relance de 100 milliards d'euros doit accompagner le redémarrage économique, doit-on flécher ces nouveaux crédits vers des investissements verts, relancer l'économie et préserver l'environnement? Le gouvernement est-il face à des injonctions contradictoires? Comment concilier les deux?
Relance verte ne passe-t-elle pas forcément par la relocalisation de certaines industries, Mathieu Plane? Au début de la pandémie de Covid-19, on a beaucoup parlé ici en France de relocaliser certaines industries, je pense aux médicaments par exemple. Sait-on si ce serait également vertueux sur le plan de l'environnement économiquement, on le sait, mais sur le plan de l'écologie?
En tout cas, c'est un axe intéressant. C'est un axe intéressant de rapprocher le producteur et le consommateur, hein, de toute façon. Donc ça pose la question de comment faire. Hein. On voit, soit c'est subventionner l'industrie, soit c'est mettre ce qu'on appelle des taxes carbone aux frontières européennes, ce qui est quand même un grand sujet. Aujourd'hui, donc c'est une vraie réponse. Et ce mouvement de relocalisation, effectivement, est compatible avec la question de soutenabilité.
Et il est amorcé.
Il est amorcé psychologiquement.
Ouais. Pas seulement.
Aujourd'hui, on n'a pas de taxes carbone aux frontières, on a des aides assez limitées à la relocalisation industrielle. Il y a des enjeux de souveraineté et des enjeux effectivement écologiques qui sont assez compatibles, je crois. Maintenant, c'est une réponse de moyen long terme. Hein. Une fois de plus, on est dans une crise quand même extrêmement violente où il y avait besoin des réponses aussi très 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 court terme.
Alors précisément, une crise extrêmement violente du fait de la pandémie, un plan de relance pour raffermir, consolider, aider l'économie. Parlons-en, c'est le chiffre du jour.
Oui, 30 milliards sur les 100 milliards d'euros du plan de relance décidé par le gouvernement seront donc fléchés vers la transition écologique. Alors c'est un peu moins ce que l'Union européenne souhaitait. 37%, ça aurait dû être 37 milliards. Mais 30 milliards, c'est tout de même conséquent, Lucille Schmitt, quand on voit le budget alloué au ministère de l'Environnement. Et pour vous, vous nous dites que ce n'est pas suffisant, j'imagine?
Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a une manière de dépenser les milliards et que très souvent, lorsqu'on parle de ces milliards qui jonglent, vous savez, dans nos têtes, dans les articles, c'est très abstrait. Et que l'enjeu, c'est au fond ce qu'on appelle le vert là-dedans. Ouais. Je me demande si ce n'est pas même les 100 milliards du plan de relance qui devraient être considérés comme une manière de transformer le modèle économique et social. Et au fond, puisqu'on parle de relocalisation industrielle, d'organiser l'arrivée de filières, qui soient des filières, par exemple, d'énergie renouvelable, qui soient des filières de faire autrement l'automobile et la transformation surtout de l'agriculture, qui est un enjeu extrêmement important. Ce que je trouve très intéressant dans l'écologie. Ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, moi, quand j'ai fait mes études il y a fort longtemps, on me disait que l'agriculture était condamnée. Et aujourd'hui, au fond, l'agroalimentaire, la transformation du territoire, le zéro artificialisation du sol dont on parle dans le cadre de la loi climat, c'est une manière de refaire venir la terre, le sol, l'agriculture, l'utilisation, en fait, la relocalisation des activités. C'est pas seulement l'industrie, c'est aussi un autre modèle agricole. Et je trouve qu'au fond, dans l'écologie, ce qui est passionnant, c'est qu'un plan de relance, on doit l'envisager totalement différemment de ce qu'on aurait fait il y a 5-10 ans.
Alors, Fabrice Sagé, justement, est-ce que vous entendez cet argument? Est-ce que les 100 milliards n'auraient pas dû être fléchés vers la transition écologique, tout simplement?
Déjà, je pense que tout le monde peut être d'accord, il faut accélérer. Il faut accélérer pourquoi? On n'est pas sur la trajectoire des plus 1,5 degrés à 2050. Donc on n'est pas dans la trajectoire des accords de Paris. La France émet 300 millions de tonnes à peu près, équivalent CO2 par an. On est un petit émetteur à l'échelle mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, pas du tout. Le problème qu'on a, c'est qu'on importe 2/3 de nos biens manufacturés, de nos produits. On importe beaucoup. Et on importe en même temps des fuites de carbone. L'industrie française a baissé ses émissions CO2. Mais si c'est pour importer des produits à fort contenu carbone, notre bilan carbone s'en ressent et on ne s'en sort pas. Donc effectivement, relocaliser, ou en tout cas produire plus en France, c'est une solution. Notre tissu productif, notre industrie s'est effondrée dans les 30 dernières années. La baisse des impôts de production peut-être va redonner de l'élan et un souffle pour qu'on produise plus ici, proche des marchés de consommation. Mais il faut aussi accélérer dans l'innovation. On parle beaucoup de l'hydrogène vert. Mmh. C'est une des solutions. Il y a beaucoup d'autres technologies. Et pour ça, il faut investir. Les plans de relance servent à ça, à investir sur l'avenir. Le pire qui puisse se passer, c'est qu'on n'utilise pas l'argent des plans de relance, qui est un geyser massif d'argent, pour verdir notre économie.
Mais est-ce que, par exemple, le gouvernement aurait dû mettre en place des chèques verts? C'est-à-dire que c'est, ça a été à un moment des enjeux. C'est-à-dire qu'on donne aux Français, aux consommateurs, les moyens d'acheter plus, mais uniquement des biens qui sont écologiquement
vertueux. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce qu'effectivement, on peut cibler un certain nombre de consommations. Alors, on voit que ça, dans un esprit de relance, hein, donc c'est purement ponctuel. Hein, alors que là, on est face à une réponse quand même structurelle, très durable.
On ne va pas vers la consommation.
Là, c'est vraiment une relance de la consommation et orienter la consommation pour les ménages les plus modestes en disant, effectivement, services de proximité, tout ce qui est peu sobre en carbone, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est face à une crise très, très spécifique, hein, qui est une crise liée à qui est sanitaire. Et la réponse écologique est intéressante parce qu'on accélère la transformation. Mais l'écologie ne peut pas répondre à l'ensemble de la crise et la crise économique. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête.
On va évoquer avec vous, Nadia, une pollution qui est tout à fait invisible, mais qui est absolument colossale, la pollution liée au numérique.
Ouais, le numérique, effectivement, son impact.
Expliquez-nous d'ailleurs d'où l'impact.
Et on peut préciser d'abord que ça ne figure pas dans la loi climat et résilience. Et pourtant, en effet, son empreinte écologique au numérique est loin d'être négligeable. Le numérique représente plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre, donc en France, et jusqu'à 10% de l'empreinte environnementale. Si on ajoute la consommation en eau ou en ressources, et ça ne cesse de croître, évidemment, ça se développe. D'ici 2040, elle pourrait atteindre près de 7% des émissions totales, c'est-à-dire bien plus, par exemple, que le transport aérien. Une moitié de cette empreinte carbone, elle est due à la fabrication, par exemple, des data centers, des réseaux et des terminaux. Les terminaux, ce sont nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs portables. L'autre moitié de cette empreinte, elle est liée à notre utilisation de ces appareils, utilisation qui va être boostée par la 5G, par ce qu'on appelle les Smart City, par l'intelligence artificielle. Et ça avait d'ailleurs conduit la Convention citoyenne pour le climat à formuler plusieurs propositions assez fortes pour verdir le numérique. Donc la loi climat, elle a fait l'impasse là-dessus. En revanche, il y a une proposition de loi qui a été débattue il y a quelques semaines au Parlement sur ce qu'on appelle la sobriété numérique. Une proposition qui était assez ambitieuse, mais qui finalement a été quasiment vidée de sa substance. Lucille Schmitt, la pollution numérique et les chiffres que je viens de donner, est-ce que ça ne va pas être ça aussi le prochain défi? Il y a la transition écologique avec la transition numérique.
Ce qui est très intéressant dans l'écologie, c'est que ça nous oblige à reconsidérer l'ensemble des gestes que nous faisions mécaniquement. Et au fond, regarder mon smartphone, actualiser mes données, j'avais pas forcément le sentiment qu'en faisant ça, j'étais quelque part, je sais pas si c'est anti-écologique, mais en tout cas pas écologiste du tout. Et là, il y a dans ce que vous dites, il y a un élément de conscience personnelle, de responsabilité individuelle. Et puis, il y a le sujet du système, c'est-à-dire au fond, la question des offres. Vous savez, lorsque vous avez un smartphone, vous recevez régulièrement des offres de l'entreprise dont vous êtes client. Votre smartphone est dépassé, vous êtes plus à la mode, etc. Donc il y a quelque chose autour aussi de la pression qu'il faut imaginer des consommateurs. Les députés qui ont proposé cette loi ont essayé de faire changer le système. Justement, on parlait des normes. Il y a à la fois le sujet de l'investissement financier, la question des normes qui sont liées au fond structurent notre société. Et comme par hasard, ils n'y sont pas arrivés. Alors je ne suis pas en train d'être une complotiste du lobbying, mais je pense que quelque part, il y a du côté de ceux qui sont au pouvoir, parfois, je dirais, trop de conformisme sur l'idée que nous ne voulons pas changer. Ouais. Quelque part, nous sommes prêts, je pense, à accélérer le rythme de notre transformation. Il faut nous y obliger.
Répondez à Lucille Schmitt, vous êtes porte-parole du MEDEF. Est-ce que les entreprises sont rétives aux normes?
Écoutez, la Convention citoyenne pour le climat, elle est quand même assez extraordinaire. Elle a produit beaucoup d'injonctions pour l'État, pour les entreprises, très peu pour le citoyen. Vous parlez du numérique, qui consomme les vidéos? C'est chaque citoyen, donc il faudrait aussi peut-être avoir dans son comportement individuel quelque chose qui soit en résonance avec
est-ce qu'il faut augmenter les tarifs, par exemple, très fortement pour la 5G, pour la haute définition?
Je vais essayer quand même d'aller au bout, parce que c'est quand même un problème majeur d'injonction contradictoire. C'est-à-dire que les citoyens, on dit l'État doit faire, les entreprises doivent faire, mais il n'y a aucune proposition qui concerne justement les citoyens. Or, dans cette transition écologique, on a besoin de tout le monde. Sur le numérique, spécifiquement, vous dites, effectivement, il y a plus d'émissions CO2. Mais est-ce que les études dont vous parlez calculent tout ce que ça a permis d'économiser? Est-ce que le bilan carbone, c'est un solde? Parce que si on prend juste la colonne des émissions liées au numérique, forcément, il va y en avoir de plus en plus, puisqu'on est dans un monde numérique. Mais est-ce que la télémédecine, ça va réduire les émissions parce qu'on ne doit pas
se déplacer
à la campagne?
Parce qu'on ne
va pas se déplacer. Ça
s'équilibre pour vous nous dites que ça s'équilibre.
Je ne vous dis pas si ça s'équilibre ou pas. Je vous dis, est-ce que, parce qu'on a des chiffres comme ça qui arrivent, est-ce que ce chiffre est un solde net c'est un juste?
On va voir ce que dit Mathieu Plane, qui évoquait plein de questions tout à l'heure. Mais
je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre juste la fenêtre du numérique dans sa consommation en émissions de carbone. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi le gain en termes d'efficacité. Par exemple, on le voit aujourd'hui avec le télétravail, si vous évitez des déplacements, la question là-dessus, c'est effectivement la transition dans laquelle on vit, le nouveau monde dans lequel on vit. Et si ça limite un certain nombre de déplacements, il peut y avoir un gain. Maintenant, effectivement, c'est des nouveaux enjeux. Par exemple, la question du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, il consomme énormément. Voilà, ce qui est quand même un vrai problème. Mais effectivement, si vous limitez vos transports, si vous faites moins des conférences à l'étranger ou partout dans le monde, effectivement, il y a quand même un gain à avoir du
Vous êtes très en même temps, Mathieu Plane. Lucille Schmitt.
Il y a cette question de la responsabilité du citoyen.
Exactement.
Et comment on fait pour responsabiliser? Très concrètement, je disais, est-ce qu'on doit augmenter les tarifs quand on consomme trop d'énergie?
Moi, je veux dire une chose, c'est que je suis en désaccord avec l'idée que les citoyens ont eu tort d'interpeller les entreprises. Vous savez, dans les années 70, au fond, on a construit le système énergétique français sans que les citoyens aient jamais l'idée de participer à ça de manière démocratique. Aujourd'hui, ça a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de domaine expert réservé. Alors, ça se fait dans un certain désordre. Parfois, ça se fait... les entreprises peuvent avoir l'impression qu'elles perdent du temps, ou les gouvernements aussi, mais je crois que cette question de l'absence de domaine expert et réservé, c'est essentiel, et qu'aujourd'hui on parle de démocratie technique, par exemple, ça c'est un point très essentiel. On doit intégrer à l'exercice démocratique, pas seulement voter, d'ailleurs on vote de moins en moins, donc pas seulement voter une fois de temps à autre, mais au fond, d'une manière permanente, instaurer un dialogue avec ceux qui gouvernent et les entreprises. Je crois qu'il faut reconnaître le pouvoir économique, là-dessus je pense que le MEDEF a un rôle à jouer, ils ont un rôle très important à jouer en matière écologique, mais ils doivent pouvoir se faire interpeller par les citoyens. Et sur la question de la responsabilité, pour ne pas être trop longue, je pense qu'effectivement, il y a un sujet sur le fait qu'entre pairs, entre amis, on puisse faire pression ensemble, et en se posant aussi la question de l'efficacité. Pas se dire, parce que j'ai fait mon petit effort, je suis efficace.
Oui, ça m'a pardonné. Le sujet, c'est la construction
de influencer son voisin, quoi. Voilà. Pas aussi un jeu de dupes. Est-ce que nos gouvernants sont vraiment conscients aujourd'hui du danger de réchauffement climatique? Est-ce qu'ils ont intégré personnellement, politiquement, cette donnée?
Il y a un échiquier politique, hein. Certains oui, certains plus que d'autres. Je crois que il y a quand même des trajectoires carbone qui se dessinent, hein. Il y a eu quand même une COP21, il y a des engagements climatiques. On voit toute la difficulté, c'est aussi l'acceptation sociale de l'écologie. C'est-à-dire que, individuellement, je pense que beaucoup de gens se considèrent comme écolo, ou en tout cas sont plutôt pro-écolo. La question, c'est quand on met des contraintes fiscales, réglementaires, que les choses deviennent difficiles. Regardez, la question de la taxe carbone et des gilets jaunes est quand même quelque chose qui a été extrêmement complexe. Donc il faut quand même le lier à l'ensemble économique, et y compris sur la répartition des richesses, les inégalités. C'est des enjeux qui sont multiples.
Mais pardon, mais à quoi? Alors du coup, mais pourquoi une taxe carbone aux frontières, qui doit être décidée cette semaine par la Commission européenne, Fabrice Le Sachet, sera-t-elle plus éco-compatible et sociale compatible que la taxe carbone qu'on a connue?
Déjà, il faut un signal prix du carbone en France, en Europe, de façon structurelle, avec une visibilité dans le temps, parce que c'est comme ça que les entreprises structurent leurs investissements. Si on sait dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, à quel prix sera le carbone, on peut investir dans des technologies vertes, on peut procéder à ces investissements. Ça, c'est très important. Si on est les seuls à faire ça, et que les produits qui sont importés ne sont pas soumis à ça, c'est une catastrophe, parce qu'on va fermer ces usines. Et on ne veut pas que l'environnement se transforme en coût social et qu'on procède à des vagues de licenciements. Donc il faut... en même temps que ce prix du carbone ambitieux en Europe, avoir un mécanisme de protection aux frontières, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui permette de soumettre les importations au haut niveau environnemental qu'on exige de nos industriels. Et les entreprises, elles ont très bien intégré aujourd'hui le risque climatique et le climat dans leur politique, parce que ce sont aussi des opportunités.
Lucille Schmitt, ça a été un vrai traumatisme, la taxe carbone en France, avec bien sûr la crise des gilets jaunes. Vous parlez d'adhésion des citoyens. Comment fait-on sans cette adhésion? Est-ce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui manque réellement pour qu'on ait bien une fiscalité, une économie, comme on dit, sans sacrifier les engagements climatiques?
En fait, la question que vous posez, c'est le lien entre démocratie et écologie. C'est-à-dire que ce qu'on dit beaucoup de gilets jaunes, c'est qu'ils n'étaient pas anti-écologistes, mais qu'ils ne voulaient pas d'une écologie technocratique qui tombe d'en haut.
Et donc, punitive.